Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On part à la frontière bosno-croate, cette porte d'entrée vers l'Union européenne qui est aussi devenue le théâtre de violences répétées. L'un de nos journalistes s'est rendu sur place, on l'écoute dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
À la frontière bosno-croate, porte d'entrée vers l'Union européenne, les violences des gardes-frontières croates sur les personnes tentant de traverser se multiplient et s'intensifient. Des violences physiques qui marquent les corps et les esprits des migrants qui les subissent et qui transforment le rêve européen de ces hommes, ces femmes et ces enfants en cauchemar continu dans l'attente d'une vie meilleure à l'Ouest. Notre collègue Hugo Santquin, journaliste au Pôle international, s'est rendu sur place sur cette frontière bosno-croate qui cristallise la politique migratoire sécuritaire de l'Union européenne. Il revient avec Sarah Saadi Garcia sur la situation et sur les témoignages qu'il a recueillis.
Bonjour Hugo.
Bonjour Sarah.
Alors vous étiez récemment à la frontière bosno-croate pour Le Soir. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer où vous êtes allé et pourquoi, dans quel cadre ?
Tout à fait, je suis donc allé à la frontière bosno-croate dans le nord-ouest du pays, dans une petite ville qui s'appelle Bihać. Et ce reportage a été réalisé avec le support de Médecins du Monde, c'est Médecins du Monde Belgique qui avait une mission sur place, une mission pour venir en aide surtout au niveau psychologique pour aider les migrants qui tentent de rentrer dans l'Union Européenne par cette frontière avec la Croatie.
Vous avez rencontré plusieurs de ces réfugiés sur place et ils ont évoqué avec vous les violences répétées des policiers croates. Comment vivent-ils aujourd'hui ?
Quasi tous les migrants qui sont en Bosnie, dans cette petite ville de Bihać, se trouvent dans deux camps. Un camp pour hommes d'une capacité de plus ou moins 1500 personnes et un camp pour femmes, familles et MENA, donc mineurs étrangers non accompagnés, de plus ou moins 500 personnes. Et je dois dire que dans ces camps, la situation est plutôt bonne. Il y a des camps aux frontières de l'Union européenne qui sont dans des conditions bien plus insalubres et toutes les personnes que j'ai pu interroger ont souligné le fait que la situation dans ces camps en Bosnie était bonne, voire plutôt très bonne au regard de ce qu'ils ont pu déjà vivre dans d'autres pays.
Et comment décrivent-ils les violences qu'ils ont subies en essayant de traverser cette frontière entre la Bosnie et la Croatie ?
Plus ou moins toutes les personnes qui se trouvent dans ces camps ont une fois ou plusieurs fois été victimes de pushback. Les pushbacks, ce sont des refoulements, parfois violents, des personnes migrantes qui tentent donc de rentrer dans l'Union européenne. Les gardes frontières ne prennent pas en considération leur situation, leur potentielle vulnérabilité ou leur volonté de demander l'asile dans l'Union européenne. Et les personnes que j'ai pu interroger font vraiment état de violences d'abord verbales et puis physiques. On parle de personnes qui se font fouiller à nu, de personnes qui sont donc humiliées, frappées, repoussées dans parfois la rivière, nues. On leur jette leurs vêtements dans cette même rivière. Il faut savoir que les camps dans lesquels ils se trouvent originellement, côté Bosnie, sont plus ou moins à une trentaine de kilomètres de la frontière, donc quand ils se font repousser, refouler, les personnes doivent retourner à pied dans le froid, parfois complètement mouillées. Il y avait le cas d'un exilé qui avait dû marcher donc plus de 30 kilomètres à pied sans chaussures et donc il nous a montré l'état de ses pieds et c'était, comme vous pouvez l'imaginer, vraiment pas beau à voir.
Et justement, ces violences physiques provoquent parfois et même souvent une détresse psychologique. Est-ce que cette détresse est sous-estimée aujourd'hui ? Vous avez rencontré une psychologue qui travaille avec les migrants sur place. Que vous a-t-elle dit ?
J'ai donc rencontré une psychologue bosnienne, mais qui travaillait pour un médecin du monde Belgique, donc qui avait cette mission de soutien psychologique à ces personnes exilées. Et la santé mentale des personnes migrantes est clairement sous-estimée, ce qui peut entre guillemets être compréhensible. C'est pas forcément le besoin auquel on va penser couvrir. En fait, ces personnes sont souvent blessées ou ont besoin de soutien administratif, juridique. Et clairement, c'était le but de la mission de Médecins du Monde, leur apporter un soutien psychologique. Et donc, ces personnes, elles sont vraiment très fragilisées parce que quand elles quittent leur pays, c'est souvent déjà pour des raisons qui sont pas toujours très positives. Ensuite, elles ont un parcours migratoire souvent très compliqué. Elles traversent des pays comme la Libye où elles peuvent être victimes de tortures, globalement de traitements inhumains. Et une fois qu'elles arrivent en Bosnie et qu'elles essayent de rentrer dans l'Union européenne, les voilà refoulées et, comme je disais, parfois violemment. Donc elles sont clairement dans une détresse psychologique très très importante. Et la psychologue que j'ai pu rencontrer parlait de dépression, de stress post-traumatique, saut d'humeur, d'irritabilité, d'insomnie, de cauchemars très récurrents.
Alors malgré ces violences physiques qui entraînent donc souvent des troubles psychologiques, vous avez aussi rencontré certaines personnes qui sont prêtes à tout pour rentrer dans l'Union européenne et d'autres qui finalement n'en peuvent plus et abandonnent.
Oui, j'ai rencontré notamment Eman qui lui a tenté le game 10 fois. Donc le game, c'est comme ça qu'ils appellent leur tentative de passer la frontière et puis de se retrouver en Slovénie et puis en Italie ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Et j'ai rencontré aussi Manegré qui lui a tenté plus de 5 fois le game et qui aujourd'hui n'est plus prêt à essayer de passer cette frontière et a décidé de demander l'asile en Bosnie-Herzégovine, chose qui malheureusement pour lui risque d'être compliquée tellement le système d'asile bosnien est défaillant. Pour vous donner un chiffre, l'année passée il y a eu 170 demandes d'asile en Bosnie et seules 5 de ces demandes ont abouti à une protection internationale.
Et pour beaucoup de ces migrants qui tentent de passer en Croatie et qui se font refouler par les policiers croates, en fait ce n'est pas la Croatie qui les intéresse directement, ce n'est qu'un pays de passage.
La Croatie est clairement un pays de transit. L'année passée, il y a eu 68 000 personnes qui ont demandé l'asile en Croatie et seules 50 personnes ont reçu cet asile dans ce pays-là. Donc ces personnes qui viennent majoritairement d'Afghanistan, de Syrie, mais aussi d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, veulent en général rentrer dans l'Union européenne, passent donc par la Croatie et puis se dirigent majoritairement vers l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, mais aussi la Belgique ou l'Italie. Ces personnes-là ont clairement un objectif en vue. Elles veulent clairement se diriger vers un ou l'autre pays car elles ont peut-être de la famille là-bas ou des amis qui pourront les aider une fois arrivées ou plus largement une communauté sur place.
Que disent les ONG de la situation à la frontière bosno-croate par rapport au traitement que subissent les migrants ?
Les ONG condamnent fermement ces pushbacks, ces refoulements. Entre 2020 et 2022, il y a eu plus de 30 000 pushbacks à cette frontière. Mais plus globalement, les ONG, mais aussi les acteurs de terrain et vraiment de fins observateurs ont dénombré 340 000 pushbacks en 2023 sur toutes les frontières extérieures de l'Union européenne. On parle de la Grèce, de la Croatie donc, de la Hongrie, de la Pologne, mais aussi de la Lettonie par exemple.
La Croatie a-t-elle été condamnée pour ses mauvais traitements et ses violences ?
Oui, en 2022 et en 2023, la Croatie a été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour des cas de violence similaires comme on a pu les aborder qui ont coûté la mort à 4 personnes dont une petite fille de 6 ans.
Et l'Europe a-t-elle aussi sa part de responsabilité ?
Alors on a posé la question à la Commission européenne quant à savoir si elle était bien au courant de ces violences, chose qu'elle ne peut en tout état de fait ignorer. On n'a pas eu de réponse. La Commission européenne nous a répondu dans un premier temps en nous disant on va vous répondre, etc. Mais on n'a pas obtenu de réponse. Mais en tout cas, les ONG et de nouveau les observateurs pointent clairement une responsabilité de l'Union européenne ou à tout le moins le fait que l'Union européenne ferme les yeux sur cette situation. Car ça l'arrange bien, entre guillemets, que ces personnes ne rentrent pas dans l'Union européenne.
Ça va aussi dans la logique d'une politique migratoire beaucoup plus sécuritaire, finalement.
Oui, comme vous le savez peut-être, il y a un pacte sur la migration et l'asile qui est sur le point d'aboutir au niveau européen. Et les ONG et l'opposition au sein du Parlement européen pensent clairement que ce pacte va dans le mauvais sens et qui va peut-être même empirer la situation aux frontières de l'Union européenne.
Merci Hugo.
Merci Sarah.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.